aujourd'hui, hein.
Putain, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Aucun souvenir.
Oh, je me rappelle plus non plus. Hein.
Philippe, c'est qui l'invité dans la chemise à rayures?
Bon, vous m'avez fait un conducteur. 30 secondes.
Oh purée, ça va être à nous. Oh, Elsa, t'as le café à côté de toi?
Les feuilles, vite, range.
Y'en a plus. Oh non, y'a plus de café là.
Attends, on en fait après l'émission.
Mon papier n'est pas imprimé là.
Les jours.
Ce casque qui marche pas. Mais c'est pas
vrai. Je m'en fous, j'ai pas le temps.
Bip. Bip. Bip.
Allez, on y va.
Je suis pas réveillée.
5 secondes.
Allez, dernière fois.
Zou.
Allez, les gars.
Bonjour à toutes et à tous. On y va. Allez, c'est parti.
Et bonjour à vous, chères auditrices et auditeurs. Bonjour Audrey.
Bonjour Elsa.
Salut AZ derrière sa vitre.
Salut à Philippe qui est de retour.
Ah oui, coucou Philippe. Hier, c'était dimanche et demain, ça sera vachement mieux. En attendant, ce lundi 24 octobre, tout va bien. On a voté en Tunisie. Paraît que le parti religieux arrive en tête. La Libye n'est plus celle de Kadhafi, mais la nouvelle législation du pays sera basée sur la charia, la loi islamique. En Syrie, Bachar el-Assad continue de massacrer son peuple en toute impunité. Hollande a été intronisé officiellement candidat à la présidence de la République. Youpi ! On est content, Audrey ?
Oui.
La France a perdu la Coupe du monde de rugby. Bon, on s'en fout, ça. Angela et Nicolas, en ce qui concerne la crise, se mettront peut-être d'accord mercredi. Peut-être. Tout va bien, on vous dit. Et si le lundi, on restait au lit ?
Travaillez plus, gagnez plus, j'aurai moins de temps. Le temps, c'est de l'argent, j'aurai moins d'argent.
J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Moi, ce que j'aime, c'est glander. Quand je glande, faut pas m'emmerder. Et pour être sûr de me lever tard, je me fume un pétard. J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça vaut le sud, hein.
Tu aimerais bien me virer si je t'avais laissé m'embaucher. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Même si tu me trouves un emploi, sache que je ne bosserai pas pour toi. Je préfère rester au chômage à me dorer le cul sur une plage. Et si c'est pas très lucratif, moi j'essaye de rester positif. Si le droit directement, je m'endors. J'aime pas travailler debout. J'aime pas travailler assis. J'aime pas travailler à genoux. J'aime pas, ouais, travailler du tout. Et si un jour, un beau matin, je dois m'en aller au turbin, je prendrai mes jambes à mon cou et je partirai pour un Pérou. Dans la cordillère des Andes, je créerai la République de la glande. Travailler sera interdit, maximum syndical garanti. Ce sera un pays sans banque. Ce sera un pays sans banque. Et tranquille sous mon arbre joint, travaillerai jamais debout. Pensez pas me faire bosser assis, encore moins me faire taffer à genoux. je ne travaillerai plus du tout. Finalement, je ne travaille pas, papa. Je ne cherche même pas d'emploi. Et je reste là, vivoter. Au soleil sans me préoccuper, au soleil sans me préoccuper, au soleil sans me préoccuper.
Zoufris Maracas avec la chanson « J'aime pas travailler », un CD de la semaine.
Je vote pour lui, moi, s'il se présente. Ouais,
moi aussi. Au programme de cette émission, Michel Guiraud a enfilé la chemise à rayures, une tenue qui convient parfaitement au nouveau responsable départemental des Restos du Cœur. Elsa Decour, spécialiste des cerises sur le micro, a été faire un petit tour dans la cuisine de Martin au lieu dit, histoire de nous mettre l'eau à la bouche. Vous n'échapperez pas à la couille dans le potage. De toute façon, nous n'avons que l'embarras du choix pour cette rubrique. Et on commence avec toi, Audrey, chou et fadaise.
Chou et fadaise. Et je suis assise pour faire cette revue de presse. Des couilles dans le potage, oui, c'est sûr, il y a l'embarras du choix. Il suffit de parcourir la presse du jour pour s'en rendre compte. Alors aujourd'hui, les unes ce matin, c'est au choix, selon les médias, ou la défaite des Bleus du 15 de France, donc Coupe du Monde de rugby. Elsa, qui s'est achevée hier, hein, je t'en informe. ou bien la Tunisie, donc élection d'une constituante. Ou alors la crise de l'euro, donc c'est au choix, c'est les trois unes qu'on a ce matin, dont Midi Libre, on va dire notre journal régional, donc c'est sans grande surprise le rugby, avec les honneurs, titre Midi Libre, les Français qui ont perdu de justesse face à la Nouvelle-Zélande et qui méritaient, selon les spécialistes, de gagner cette partie. Ils ont été meilleurs, mais voilà, bref. Donc les Bleus, on voit une photo là avec les Néo-Zélandais qui sont ravis, et les Blancs, blanc-bleu, complètement dépité. Midi Libre, autre info du jour, Super U, le supermarché Super U va devenir encore plus gros. Il va passer à 3 600 m². Il y aura encore plus d'espace pour nous proposer de bons produits du terroir. Hein, voilà. Il y aura 10 boutiques, Elsa. Ça, c'est super. On pourra aller faire les soldes. Une cafétéria, 710 m², espace culture et loisirs. Donc, j'imagine les CD, les livres qu'il y aura là-dedans. Mais ça va être fabuleux. Donc, c'est un projet en partenariat entre la commune, la société qui est propriétaire du Super U et la SEMSACA, Société d'économie mixte. Donc ça a été voté vendredi soir, cette décision. L'opposition, donc incarnée par Sébastien David et Marie-Claude Auger, n'était pas tout à fait d'accord avec cette décision. Ils sont très inquiets, notamment pour les commerces de centre-ville. Donc on les comprend.
Bah oui.
On les comprend tout à fait. Donc voilà, il va y avoir un super hypermarché à l'entrée de Saint-Taf.
Est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça?
Écoute Elsa, je te laisse mettre de la décision. Moi, je ne crois pas. C'est clair que c'est un peu inquiétant, mais que l'opposition, on comprend un petit peu ce qu'ils veulent dire par là. En plus, c'est des montants exorbitants. Hein. Montant total de l'opération, 1 150 000 euros. La société qui est propriétaire du magasin Super U participe à hauteur de 500 000 euros à peu près. Je ne vais pas aller dans les détails. Ils ont eu une session gratuite d'une parcelle. Oui, Elsa, ne fais pas ses gros yeux. C'est Claude Lacan qui l'a écrit dans Midi Libre. Je sais pas moi qui le dis, c'est Claude Lacan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Elle estimait cette parcelle à 315 000 euros quand même. Hein. Donc c'est pas juste un petit bout de terre plate de pour mettre des petites fleurs. Hein. C'est 315 000 euros.
Et qui c'est qui a fait cadeau de cette parcelle?
Ils disent pas la cession gratuite d'une parcelle. Ancienne maison Vergue. Est-ce que ce serait la commune? Je sais pas.
Écoute, je vois pas
à moins qu'il y ait
un privé qui va faire cadeau.
Un privé tout sympa qui donne une parcelle de 315 000 euros. Enfin voilà, ben nous on a besoin de locaux pour la radio.
Est-ce que
la SEMSACA peut pas faire quelque chose?
Enfin, monsieur le maire.
Voilà, bref, je pense que ça va faire du bruit tout ça. Donc autre titre de la journée, la crise. Alors la crise, Libé et Le Figaro sont pas du tout d'accord. Une aujourd'hui, Libé nous dit que Le Figaro estime que Sarkozy et Merkel avancent, et Libé pendant ce temps-là dit que Sarko perd son crédit. Voilà, alors Libé qui voit les choses toujours en noir, tu vois, toujours de manière négative. Heureusement que Le Figaro est là quand même, Elsa. Heureusement, parce que sans Le Figaro, on serait passé à côté de l'immense joie, l'immense bonheur de voir la photo que tu attendais, Elsa. Je sais que tu as passé un mauvais week-end parce que
j'attendais que ça.
T'attendais que ça. La photo de accompagnée du de la légende suivante. Hier, 4 jours après la naissance, la première dame de France et sa fille ont quitté la clinique de la Muette.
C'est magnifique.
Voilà,
extraordinaire.
Voilà, mais Libé,
on n'a jamais vu ça. Hein.
On n'a jamais vu ça. Non, non, c'est fabuleux.
C'est
tu vois, Libé, ils en ont pas parlé, mais ils sont tout ronchons aussi.
Ah bon,
tu
oui, vois, c'est Libé.
Voilà, c'est un peu. Alors c'est rigolo parce que donc la une de Figaro, il y a la photo de Carla et son bébé là occupe exactement la même place que la crise. Donc à gauche t'as un encart sur la crise et à droite même taille, même espace t'as la photo de Carla. Sarkozy qui sort un dimanche de la maternité. Bref, rue 89 non plus, ils sont pas très, très cool au niveau des infos, ils continuent, des couilles dans le potage, en veux-tu, en voilà, ça commence à devenir pénible quand même. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent, rue 89 ? Que l'ex-patron de la sécurité de Le Pen reprend du service en Libye. Alors il reprend du service, pourquoi faire ? Pour protéger la délégation à Benghazi de l'Union européenne. Donc l'Union européenne a choisi comme chef de sa sécurité à Benghazi Jean-Pierre Chabru, qui est un ex-donc responsable du département protection et sécurité du Front National. Donc dans Rue 89, un article assez conséquent qui explique un petit peu le parcours de ce gentil monsieur qui, tout fier, a déclaré qu'il dépendait directement du président Jean-Marie Le Pen. Voilà. Il y a quelques années, donc à lire dans Rue 89. Rue 89 qui nous apprend aussi une très bonne nouvelle pour une personne qui a vécu de moments difficiles, Elsa.
Ouais,
Anne Sinclair.
Ah !
Anne Sinclair, voilà, qui est pressentie pour diriger le Huffington Post français. Donc c'est un site d'information américain. Il y aura le double français, on va dire, qui sera lancé en partenariat avec le groupe Le Monde. Et Anne Sinclair est pressentie pour être là patronne de ce nouveau site d'information. Alors d'après Rue 89, elle n'aurait pas de rôle exécutif, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas rédac' chef du quotidien, mais elle sera la patronne, c'est le mot utilisé. Donc je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Voilà, en tout cas, elle le mérite bien quand même,
ah oui, avec tout
après
tout
ce qu'elle a vécu. Voilà, ça c'est dans Rue 89. Une autre petite nouvelle, tu en as parlé Elsa en intro de cette émission, le Conseil national de transition libyen qui proclame officiellement la libération de la Libye, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais qui effectivement proclame la charia comme source de droit. Donc c'est Mustapha Abdul Jalil qui est le président du CNT, du Conseil National de Transition, qui a déclaré à des milliers de Libyens hier que la révolution de Libye avait enfin pris fin, que le pays était sur la voie de nouvelles élections et que la loi islamique serait la source de base de la législation dans le pays et que toutes les lois existantes qui contredisent les enseignements de l'islam seront abrogées. Donc que les hommes libyens se réjouissent, c'est que les Français qui ont envie partent en Libye, parce que ça y est, il n'y a plus de restrictions sur le nombre d'épouses. On peut y aller. Donc voilà, je sais pas, Z, si ça t'intéresse. Tu peux... 10, voilà, Z, il voudrait 10, donc je pense que c'est possible. Et puis alors, ce qui est super, c'est qu'en plus, elles ne pourront pas te quitter, Z, parce que le divorce a été interdit. Ah, ça te fait... Bon, elles peuvent rester... Elles peuvent
non,
rester
mais toi, tu peux les quitter, t'inquiète.
Oui, tu peux les quitter.
Tu peux les répudier comme tu veux.
Voilà.
Ouais, elles n'ont pas le cul sorti des ronces, hein, les femmes libyennes.
Non. Et bon, en Tunisie, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va attendre le résultat, mais bon, voilà, on ne va pas faire les Madame Irma. Mais c'est sympathique, hein, les après-révolutions. Bon, c'est toujours un peu comme ça, c'est pas très étonnant. Les révolutions ne se font pas en un mois. Et puis, il y a des creux, des vagues. Il y a des choses un petit peu difficiles après ces événements-là. Je passe à Courrier International. Un article un petit peu plus cerise sur le micro, quoique les Robins des Bois de l'électricité, il s'appelle. C'est l'auteur, enfin la journaliste, c'est Dina Karadziou. C'est un article qui a paru dans un journal qui s'appelle, attention, Eleftherotypia. Je sais pas si j'ai bien prononcé, un journal athénien qui nous raconte que un groupe qui s'est baptisé les citoyens de Veria ont rétablissent le courant dans des foyers qui en sont privés. La journaliste nous dit que plus d'un million de Grecs ne pourraient pas payer leur électricité, seraient ainsi privés de lumière et puis tout ce qui s'ensuit. Même les écolos s'y mettent, en fait, ce qui pourrait entre guillemets paraître bizarre parce que bon, voilà, l'électricité, les écolos, au moins on s'en sert, mieux c'est, mais là quand même, comme ils disent que c'est une action totalement différente, qu'ils remettent pas le courant chez des potes, mais chez des gens qui en ont vraiment besoin. Donc voilà un article c'est triste quand même d'avoir à faire ça, mais en même temps, la solidarité, ça fait pas de mal. Donc ça, c'est à lire dans Courrier International. J'ai rigolé aussi, enfin j'ai rigolé, c'est vite dit, j'ai souri suite à l'article qui a paru dans Le Temps. Le Temps, c'est un journal de Genève, où il y a une petite caricature avec deux monsieur avec haut de forme et gros cigares dans la bouche. Les banques suisses font des milliards de bénéfices, ça profite surtout aux actionnaires. Donc il y a un petit bonhomme qui dit « Comment va-t-on faire pour se partager ces 8 milliards ?» On n'est que 9, lui répond l'autre, donc gros problème. Trêve de plaisanterie, le journaliste Sylvain Besson, en fait, retrace un petit peu le parcours de ce pays qui, là, on est en pleine crise, on en entend parler partout, mais la Suisse prospère et à nouveau confiante, a retrouvé son statut de pays modèle. Donc, on apprend qu'un dixième des milliardaires de la planète y habite quand même, c'est pas rien. Ces ménages sont les plus fortunés du monde, avec un patrimoine moyen de 250 000 francs suisses, 200 000 euros environ. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur la Suisse et les dessous de cet État qui ne veut bien sûr pas rentrer dans l'Europe, il faut aller voir Courrier International. Voilà, Courrier International, il y en a beaucoup des articles. Alors j'en laisse un peu pour Zou et pour toi Elsa pour la semaine. Il y a vraiment des choses intéressantes. Tout comme dans Politis. Alors Politis, je ne sais pas si tu l'as lu Elsa, mais il y a un édito que je te conseille de lire. Un édito que Denis Siffer a intitulé « Les jumeaux de l'histoire ». Qui sont ces jumeaux de l'histoire ? Ce sont Salah Hamouri et Gilad Shalit. En fait, il compare un petit peu les scènes de liesse de la famille de Gilad Shalit et les scènes de liesse dans les familles palestiniennes qui ont retrouvé des êtres chers de qui ils avaient été séparés pendant quelques années. Alors Denis Siffer, dans son édito, ne juge pas l'un et l'autre, mais juge plutôt le traitement médiatique qui en est fait. Car il dit que Salah Hamouri, quand même, il a été capturé par un commando palestinien alors qu'il était sur son char. C'est un caporal.
Gilad Shalit, là, t'as dit Salah Hamouri.
Ah oui, non, Gilad Shalit, ça y est, ils sont jumeaux, je suis désolée, on les confond. et donc, il dit que c'est Shalit qui, dans le discours officiel français, est l'otage, alors que finalement, c'est un soldat qui s'est fait capturer par l'ennemi. À la limite, c'est une situation qui se retrouve souvent en période de guerre, mais qu'on parle de lui comme d'un otage, que Hamouri est un prisonnier. C'est Gilad Shalit qui a été enlevé, Hamouri a été arrêté. Enfin voilà, donc il fait un parallèle tout au long de son édito, intéressant à lire.
Ce qu'il faut savoir, si je peux me permettre, c'est que Salah Hamouri, ses parents n'ont jamais été reçus par Sarkozy.
C'est ça.
Ils ont été complètement méprisés par le gouvernement. Et on a pu entendre Longuet, il n'y a pas longtemps, sur les ondes de France Inter, dire qu'il ne savait pas qui c'était du tout, Salah Hamouri. Il est quand même ministre de la Défense, ce monsieur.
Ah ouais, c'est ce que dit Denis Siffer. C'est lui, ce jeune soldat, pris le doigt sur la gâchette, donc Gilad Shalit, qui a eu les honneurs des discours du président de la République française. C'est lui dont les portraits géants ont couvert certains de nos bâtiments officiels et dont les parents ont été reçus à l'Élysée et qui fut cité par François Fillon au même titre que nos otages au Niger. Voilà, donc effectivement, ça permet un peu de prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on entend et tout ce qu'on peut lire. Et Denis Siffer qui dit qu'il serait temps dans ce conflit israélo-palestinien qui nous est si proche de nous départir d'une vision coloniale. Il fait le lien avec l'émission de la semaine dernière, Elsa, de lundi dernier. Il serait bienvenu, par exemple, que le maire de Paris, qui a rendu hommage lundi aux Algériens massacrés par la police de Papon, voici 50 ans, accorde à Salah Hamouri le statut qu'il a accordé à Gilad Shalit. Voilà, pour l'édito de Politis. Politis, il me reste deux petites minutes, alors je vais vous parler simplement de cet article sur les facultés études boulot dodo. De plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler pour financer leurs études. Plus de 50% des étudiants français assument un job à côté de leurs études. Et évidemment, ça a des impacts sur leur réussite. Donc à lire dans Politis. Et enfin, un dossier sur Sauver l'Hosto. Des mots et des remèdes, je n'ai pas vraiment beaucoup de temps, donc je vais aller droit au but. Droit au but, c'est ça. C'est dans l'Essonne, un hôpital sous les pires auspices. Un ambitieux projet de centre hospitalier sud-francilien qui fait l'objet d'un partenariat public-privé tourne au fiasco économique et sanitaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dassault et Douste Blasi, qui étaient ministres de la Santé à l'époque, décident de confier la construction d'un hôpital à un géant du BTP qu'on connaît bien ici, qui est Eiffage. Eiffage bâtira l'établissement et en assurera la maintenance. Et en échange, l'État lui versera un loyer annuel de 38 millions. d'euros sur 30 ans. Voilà, ça s'appelle un PPP, un partenariat public-privé. Voilà pour l'info. Ce qui se passe, c'est que l'affaire tourne au vinaigre. L'hôpital est censé ouvrir en janvier 2011. Et là, grosse boulette, des malfaçons partout, des services pédiatriques sans biberonnerie, par exemple, de l'eau non stérilisée. Bref, la chaudière qui déclenche deux incendies. Bref, le bâtiment ne peut pas fonctionner normalement. Et donc, il y a des malfaçons qui sont prouvées, avérées. Mais Eiffage réclame quand même une rallonge de 185 millions d'euros pour faire les travaux, pour corriger les malfaçons. Voilà, donc un reportage de Pauline Groll à lire dans Politis, à sortie d'un dossier santé assez conséquent que je vous conseille de lire si le sujet, évidemment, vous intéresse.
Et tu sais ce qui se passe quand on laisse les hôpitaux publics se dégrader, Audrey ?
Non.
Non, bah, il se passe ça.
Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale. Ce sera pas un soir horrible, clair, chaud, parfumé, sensuel. Je mourrai d'un pourrissement de certaines cellules peu connues. Je mourrai d'une jambe arrachée par un rat géant, jaillie d'un trou géant. Je mourrai de sans coupure. Le ciel sera tombé sur moi. Ça se brise comme une vitre lourde. Je mourrai d'un éclat de voix crevant mes oreilles. Je mourrai de blessures sourdes, infligées à 2h du matin par des tueurs indécis et chauves. Je mourrai sans m'apercevoir que je meurs. Je mourrai enseveli sous les ruines sèches de 1000 mètres de coton écroulé. Je mourrai noyé dans l'huile de vidange, foulé aux pieds par des bêtes indifférentes et juste après par des bêtes différentes. Je mourrai nu ou vêtu de toile rouge ou cousu dans un sac avec des lames de rasoir. Je mourrai peut-être sans m'en faire. Du vernis à ongles aux doigts de pied et des larmes plein les mains. Et des larmes plein les mains. Je mourrai quand on décollera mes paupières sous un soleil enragé. Quand on me dira lentement des méchancetés à l'oreille. Je mourrai de voir torturer des enfants et des hommes étonnés et blêmes. Je mourrai rongé vivant par des vers. Je mourrai les mains attachées sous une cascade. Je mourrai brûlé dans un incendie triste. Je mourrai un peu, beaucoup, sans passion, mais avec intérêt. Et puis quand tout sera fini, je mourrai.
Après cette très belle chanson du génial Boris Vian, interprétée par un non moins magnifique Jean-Louis Trintignant, nous ouvrons la chemise à rayures. Et c'est Michel Guiraud, nouveau responsable départemental des Restos du Cœur, qui est venu dans notre studio pour nous parler de ses nouvelles fonctions et de l'avenir des Restos du Cœur. Michel Guiraud, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez été élu le 17 septembre à la tête du comité départemental des Restos du Cœur, après avoir officié durant de nombreuses années au Restos du Cœur de Sainte-Afrique. Qu'est-ce que vous retirez comme bilan de cette expérience à Sainte-Afrique ?
Alors, les années ne sont pas si nombreuses que ça, mais elles ont été très intenses et bien remplies, comme tous les restos, d'ailleurs, comme tous les centres restos. Ce que j'en retire, c'est d'abord une association forte, qui a des lignes éthiques bien affirmées et qui permettent un fonctionnement clair et qui évite les dérives. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Et c'est sûrement aussi ce qui permet, dans l'ensemble des centres, d'avoir une très très bonne ambiance de convivialité et d'investissement. Parce que si on n'a pas ça, effectivement, on ne peut pas fonctionner correctement. On ne peut pas rendre le service attendu, le service pour lequel on devient bénévole.
Est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous faire un petit bilan de l'année 2010-2011 pour les Restos du Cœur sur le département, si c'est possible ?
Alors, le bilan de l'année 2010-2011 est impressionnant comme chaque année. C'est-à-dire qu'il y a eu 3200 personnes qui ont été dépannées sur le plan alimentaire, et je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect-là, et 180 bébés, plus de 300 000 repas qui ont été distribués pendant l'hiver, et 40 000 repas à l'heure actuelle. On va sûrement arriver aux 45 000 à la fin de la campagne d'été. Le nombre de centres est de 12 maintenant, puisqu'un centre qui était rattaché à Espalion est devenu autonome, à l'occurrence Saint-Geniès. Et ces centres sont à disposition de 365 bénévoles sur le département. C'est-à-dire que c'est quand même, dans un département rural, une présence à précarité qui interroge, puisque en général on ira tous dans l'Aveyron, mais on n'y trouve pas toujours ce que l'on veut. Et il faut, je tiens aussi à préciser que au niveau de la collecte que nous venons de faire, liée à la collecte nationale, cela nous a permis de distribuer 30 000 repas supplémentaires, soit en colis de dépannage, soit pendant la campagne d'été. Alors ce que je retire aussi, c'est que sur Sainte-Afrique, il y a une équipe très dynamique, mais que cet aspect-là se retrouve dans l'ensemble des centres de l'Aveyron. Et ceci, on le doit aux deux anciens présidents qui s'appelaient Michel tous les deux, Michel Bring et Michel Comperon. Ils ont su mettre en place une association départementale forte, avec des budgets, parce qu'il faut bien parler argent aussi, équilibré. Et c'est ce qui permet aussi l'efficacité sur le terrain.
Au niveau des bénéficiaires des Restos du Cœur, est-ce qu'il y a une évolution ?
Il y a une évolution. Alors, je vais parler plus de Sainte-Afrique, puisque pour le moment, je n'ai pas les chiffres au niveau du département. Nous avons vu cette année deux créneaux des tranches d'âge augmenter fortement. Le créneau des 18-25 ans et le créneau à partir de 55 ans. Et c'était des évolutions que nous n'avions pas les années précédentes, où l'augmentation se situe plutôt dans la tranche 35-50. Et cette année, les tranches d'âge qui ont vraiment augmenté, ce sont les deux extrêmes de la courbe des âges. C'est significatif aussi des problèmes économiques qui se posent actuellement aux deux extrémités. Lorsqu'on aborde par exemple le problème du travail, on retrouve ça chez nous aussi.
Et les retraités aussi.
Et les retraités dans cette tranche-là qui sont avec des retraites très 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 minimes. Et c'est quelque chose qui sûrement n'est pas encore complètement élucidé, entre guillemets élucidé, c'est la place des retraités dans le milieu rural, avec la ruralité et l'éparpillement de personnes dans des coins reculés, que ce soit au nord ou au sud, avec en plus de ça la culture rurale et aveyronnaise qui fait qu'on ne parle pas de ces difficultés, on s'assume comme un peu. Et quelquefois, on a beaucoup, beaucoup de mal à s'assumer.
Vous dites aussi, je crois qu'il y a pas mal de gens finalement que vous ne voyez pas.
Et voilà, ces personnes-là font partie de ce public-là, c'est-à-dire des personnes qui, quelquefois pour des raisons purement matérielles, n'ont pas de véhicule ou n'ont pas les moyens de mettre de l'essence dans le véhicule pour venir vers les restos, qui ont du mal à faire le premier pas ou à franchir la porte. On pense qu'il y a un potentiel quand même, peut-être pas massivement important, mais un potentiel de personnes à dépanner qui existent encore et qui ne sont pas dépannées.
Alors comme toutes les associations caritatives, vous allez être confronté d'ici à 2013 à la disparition de la politique européenne d'aide aux plus démunis, la PEAD. Qu'est-ce que représentait cette aide pour les restos ?
Alors au niveau des sigles, la politique européenne d'aide aux plus démunis, c'est quelque chose qui est encore dû à Coluche, puisque c'est lui qui était parti le négocier avec Jacques Delors au niveau du Conseil de l'Europe. Et avec le temps pour que le fusil refroidisse, les choses ne se sont mises en place qu'après son décès. Mais c'était lui qui avait initié cette mise en place de ce système-là, à savoir la mise à disposition pour les associations caritatives ou solidaires de tous les excédents agricoles de l'Europe. Ce qui s'est passé, c'est que les excédents ont été en diminuant vu la rationalisation de l'agriculture et qu'à un moment donné, ils n'ont pas été suffisants pour répondre aux besoins. Et il a été décidé au niveau de l'Europe de débloquer une ligne de crédit pour compenser ce manque de moyens et racheter des produits pour pouvoir les distribuer. Or, 6 pays qui ne participent pas au PEAD et qui n'en sont donc pas bénéficiaires ont mis en cause ce système-là puisqu'il ne s'agissait plus des excédents mais il s'agissait vraiment du financement. Ils ont saisi la Cour européenne de justice, ce qui leur a donné raison. Donc le PEAD est appelé à disparaître. Les conséquences, c'est que ça va représenter pour les 4 associations qui en sont bénéficiaires, à savoir la Banque alimentaire, le Secours populaire, la Croix-Rouge française et les Restos du cœur, un gros manque dans les aides et dans la distribution, qu'on peut chiffrer au niveau des Restos du cœur selon les lieux, selon les attributions, entre 18 à 25%. Et l'interrogation, ça a été maintenu jusqu'en 2012 sans aucune disposition légale. Ça a été maintenu comme ça sous des accords sans qu'il y ait vraiment de disposition qui soit prise. Et on ne sait pas ce qui se passera ensuite. Les conséquences, c'est que nous allons être devant un vide qui ouvre une réflexion et sur laquelle nous n'avons pas encore, que ce soit au niveau national et au niveau des centres ensuite, de réponse précise. Va-t-on lever le barème pour recevoir moins de monde ? Ce n'est pas dans la politique des restos puisque l'accueil est inconditionnel. Va-t-on abaisser les attributions pour continuer à servir tout le monde ? Ce serait peut-être plus équitable, mais ce n'est pas quelque chose qui nous satisfait. Donc nous ne savons pas du tout quelle réponse va être apportée. La seule chose qui reste encore en cours, c'est un gros lobbying au niveau national et au niveau régional et européen pour qu'un système soit trouvé pour compenser cette défection. Mais c'est vrai que ça interroge beaucoup de monde et ça insécurise les responsables de centre et ça insécurise aussi les personnes accueillies.
Alors dans vos nouvelles fonctions, vous avez de grosses responsabilités. Quels sont vos projets pour les restos au niveau départemental ? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ?
Je dirais qu'avant de m'engager, j'ai quand même demandé quelques mois de réflexion. Pour une raison bien simple, c'est que jusqu'à maintenant, le responsable était toujours sur Rodez. Ça a été un choix de l'ancien responsable de décentraliser les responsabilités. Donc ça suppose d'abord un gros investissement personnel en temps de déplacement. Et ça suppose aussi de continuer dans la ligne du projet associatif départemental, parce qu'au niveau des restos, nous avons un projet associatif national qui est décliné ensuite dans chaque département en fonction des caractéristiques du département, à savoir sur l'Aveyron, les 4 axes principaux, c'est mieux accueillir pour mieux accompagner et mieux travailler dans l'insertion, parce que c'est un des axes, j'ai parlé tout à l'heure, de distribution alimentaire. Les restos ne se limitent pas à ça. C'est la partie visible de l'iceberg, mais pour les restos, ce qui est beaucoup plus important, c'est tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire l'accompagnement des démarches administratives ou la réorientation vers les structures compétentes, l'accueil tout simple, l'écoute, redonner envie de se battre, les vestiaires, les ateliers d'illettrisme, de français langue étrangère, d'initiation à l'informatique et le soutien scolaire aux gens du voyage, plus des ateliers cuisine et dans certains centres, avec des ateliers qui ne sont pas généralisés, mais qui, l'objectif étant de les généraliser au maximum, dans certains centres, des ateliers couture, des jardins partagés, dont le produit va à 50% pour le resto qui s'en occupe et à 50% pour les personnes accueillies ou les personnes qui travaillent le jardin. Il y a tout un panel encore d'activités de soutien pour redynamiser les personnes, pour leur redonner envie de repartir dans l'insertion qui sont à développer. Le deuxième point, c'est vis-à-vis des bénévoles. L'engagement des bénévoles au resto est quelque chose de très cadré et qui est quelque chose qui engage. Mais il ne faut pas oublier aussi que les bénévoles sont en général des papis et des mamies et que ce sont des personnes qui ont une vie personnelle et que cette vie personnelle, il faut aussi la protéger quelque part, sinon il va se passer des choses qui disjoncteront. Donc comment bien accueillir les bénévoles, bien les aider à s'investir, en particulier par des formations spécifiques au resto, mais en même temps comment reconnaître leur indépendance, leur autonomie et leur part de vie personnelle et faire fonctionner l'ensemble des centres correctement. C'est la quadrature du cercle, en fait. Le troisième point, c'est le maillage du territoire, parce que l'Aveyron est un département rural, et nous avons besoin de... Je parlais tout à l'heure des personnes qui sont dans des coins reculés. Il y a des personnes qui font 80 km aller-retour pour venir chercher l'alimentation. On peut dire qu'ils sont dans la double peine, donc il faut réfléchir quelle structure, quel outil on peut mettre pour essayer de compenser ces choses-là. Et le quatrième point, c'est la communication, c'est les animations, c'est la recherche de fonds. Parce que l'Aveyron, c'est une lourde charge, comme ont laissé les prédécesseurs. L'Aveyron est complètement autonome financièrement, c'est-à-dire que en cas de difficulté, le national est toujours là pour aider les associations départementales. Au niveau de l'Aveyron, c'est sûrement une tradition historique, l'Aveyron est bien connu. Nous avons toujours été autonomes et il va falloir continuer ce sens-là.
Alors on va revenir un petit peu à Saint-Affrique et on va parler de la belle personne qui vous remplace.
Marie-Annick était déjà responsable du centre. Ouais. Et nous étions, elle était même responsable avant moi. Mmh. Et puis nous avons été co-responsables. Et nous restons pour le moment co-responsables, c'est-à-dire que, alors, sûrement un petit peu plus de travail, d'ailleurs elle ne manque pas de me le faire savoir, mais nous restons tous les deux co-responsables, au moins provisoirement, en attendant de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse aller la seconder, parce que moi je ne serai peut-être pas tout le temps là comme il le faudrait. Mais Marie-Annick était déjà responsable, et c'est une personne de qualité quand même, Marie-Annick, qui est très dynamique, qui est très à l'écoute des personnes, et qui apporte beaucoup, beaucoup de convivialité, de joie à toute l'équipe et aux personnes accueillies.
Est-ce que vous souhaitez rajouter autre chose ?
Simplement que, comme pour les personnes accueillies, l'accueil est inconditionnel. S'il y a des personnes qui souhaitent faire bénévole, l'accueil est aussi inconditionnel, à condition bien sûr ensuite que la charte soit respectée et que l'esprit des restos soit bien posé, c'est-à-dire on va au resto pour rendre service à des personnes, qu'on les connaisse ou pas, on ne sait pas ce qui se passe ni avant ni après. On est dans le temps des restos, on est dans l'aide à apporter à personne.
Merci beaucoup Michel.
Avec plaisir.
Thank you.
Et bien c'était Tsonga 2, c'est un autre CD de la semaine, et le titre que vous venez d'entendre, c'est Eldorado. Et puis tu sais, Audrey, il y a des gens, il y a plein de gens qui font des régimes.
Ouais, ils maigrissent à vue d'œil.
Ils maigrissent à vue d'œil, alors le plus connu, c'est Hollande.
Ouais.
Ouais, il est devenu cadavérique.
Wally aussi, dans le style, je sais pas ce qui lui est arrivé, est-ce qu'il est malade, est-ce que... méconnaissable.
Et José Bové aussi, pareil, il a perdu 15 kilos cet été. Ouais,
il a
un régime... Bon, bref. Donc, pendant qu'il y en a qui font des régimes, Elsa de Cour, elle ne fait pas de régime. Elle s'est rendue dans la cuisine de Martin, au lieu dit. C'est notre petite cerise sur le micro.
La cerise sur le micro.
Chronique d'information positive.
Alors j'arrive au lieu-dit et ça sent super bon, mais qu'est-ce qui se passe ici? Moi je crois vraiment qu'il y a un nouveau cuistot. Apparemment il s'appelle Martin. Salut Martin, c'est toi qui cuistot ici?
Eh ouais, c'est bien moi, ouais. Martin quoi. Vous me connaissez peut-être déjà, enfin pour certains en tout cas.
En plus t'es implanté dans le territoire, toi t'es un typique, un pur Aveyronnais, non?
Ah ouais, c'est mon grand retour là, ça fait presque un an et demi là que je suis rentré. Et j'étais dans l'Hérault avant, je me suis terré dans une grotte pendant plusieurs années. Ah ouais, moi je suis Aveyronnais, moi je suis né ici, moi je suis né à Sainte-Afrique en 83, fils de gens qui viennent d'ailleurs, ça s'entend à mon accent, non? Ben, en plus, les recettes que je fais des recettes aveyronnaises, pas plus tard qu'hier, là j'ai fait des oignons frits à l'aveyronnaise, donc je fais vraiment à manger pour tout le monde. Alors en fait, le lieu-dit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un lieu donc associatif qui mélange une librairie, un café, un resto. Le resto a été tenu par deux personnes depuis le début, donc Marie-Laine Debuc qui a commencé, ensuite un gars qui s'appelle Ludo, et puis en début d'été, il a arrêté. Donc il y a une annonce qui a été posée au lieu-dit pour chercher un cuistot, et je me suis proposé. Et miracle, et ben c'est moi qui a été accepté. Donc j'ai repris les fourneaux depuis mardi dernier maintenant.
Donc ça fait qu'une semaine et tu correspondais au poste, donc c'est cool parce que t'es jeune, t'as quel âge toi Martin?
Ah genre j'ai 28 ans, je vais bientôt passer de l'autre côté de la barrière comme on dit.
Et alors tu proposes quoi comme repas et comme cuisine ici?
La base, de toute façon, c'est de travailler les produits frais, déjà. Donc, j'ai pas de congélateur. Donc, tout est frais. Ça, vous pouvez en être sûr. Des produits locaux au maximum. Alors, bien sûr, de temps en temps, on est obligé d'aller chercher des fruits secs qui viennent de Turquie, d'Iran ou d'autres pays. Mais moi, la base de tout, c'est des viandes locales, des légumes locaux et de saison, bien sûr. En essayant de faire une cuisine plutôt épicée, plutôt surprenante, en utilisant des recettes pourquoi pas traditionnelles, en y ajoutant un petit peu un côté donc épicé, un côté original.
Aujourd'hui, t'as servi quoi par exemple ?
Alors aujourd'hui, j'ai fait une entrée assez originale, c'était une salade de riz aux abricots et à la menthe. C'est une recette finalement assez classique, c'est une manière de faire un sucré salé. Et puis derrière, sur le plat chaud, j'ai été beaucoup plus classique, j'ai fait du veau grillé de la ferme Descomptes à Sylvanès, accompagné de brochettes de légumes, donc des aubergines et des courgettes, ainsi que des petits champignons, du jardin. J'ai accompagné ça aussi avec une petite purée maison. Ah, ça se fait plus trop ça, les purées maison. Donc une vraie purée au moulin à légumes, avec aussi une petite compote de coing du jardin aussi. Voilà, donc j'essaye de vraiment utiliser des produits très locaux. Pour le dessert, j'ai fait également assez original, j'ai pris des pommes que j'ai râpées et que j'ai mélangées avec des fruits secs, des pistaches et des figues. Tout ça gratiné au four, c'était plutôt pas mal.
Un truc qui est original en fait, c'est que tu vas nous dire les prix des formules, mais tu peux aussi manger végétarien, t'es pas obligé de manger de la viande.
Alors sur les tarifs, moi je pars à 10 euros, donc 10 euros, enfin non, même 9 euros pour simplement le plat du jour. À 10 euros, on a un entrée et un plat végétarien, ou un plat et un dessert végétarien. À 2 euros de plus, donc à 12 euros, entrée, plat ou plat, dessert, carnet, donc avec de la viande. Et puis le menu complet à 14 euros, voilà. Donc là, je suis à la recherche, s'il y en a qui m'écoutent, de producteurs de viande, de légumes, qui pourraient me livrer des produits de qualité, c'est ce que je recherche, pas forcément biologique, mais de qualité. Le marché également est un bon marché à Sainte-Afrique. Je convie tout le monde à y aller, puisqu'on trouve de superbes produits à cuisiner et à se régaler. Alors, il faut savoir que je suis tout seul hein, en cuisine. Je fais la cuisine, le service, la plonge, je fais tout. Je suis à mon compte hein, et je trouve que c'est très bien comme ça. Et donc, effectivement, j'ouvre que le midi afin de pouvoir garder quand même un petit peu de temps. C'est un métier qui demande beaucoup, beaucoup de travail. C'est des journées de 12 heures. Mais ce qui fait plaisir, c'est surtout de voir le plaisir que peuvent avoir les gens à apprécier la cuisine que je fais.
C'était donc Martin du lieu-dit. Hein.
J'ai faim.
Voilà, ça ne m'étonne pas Audrey. Et donc aujourd'hui c'est fermé, mais demain ce sera ouvert.
Ouais, hein. Du mardi au samedi midi.
Du mardi au samedi midi, donc allez-y, ça a l'air bon.
Ouais, j'ai testé pour vous. Il y en a d'autres, des petits restos comme ça, sympa. Il va falloir qu'on continue à faire un petit tour dans les restos parce que ça vaut le coup. Hein. Mmh. Ouais.
Eh ouais. Allez, avant de se quitter, on va se remonter le moral avec Petit Lapin de Basta Papaye. Ça dégage.
Je vais faire oh. Une balade dans la forêt. Il fait beau aujourd'hui oh. Pour aller se décrasser.
Ok, on y va.
Je prends mon sac de couchage.
Je prends mon sac.
Écoutez mes petits
et
pieds.
Mes petits boutons.
Et je pars d'un bon
et
pas.
Et je pars.
Affronter tous ces bosquets.
Allez, hop là.
Je rencontre en chemin un lapin plein de chagrin. Ton petit lapin abandonné par les siens.
Il raconte son histoire d'un œil tout noir.
Le petit lapin vivait dans un terrier. La mère lapin, le père lapin, les soeurs lapin, le frère lapin. Gros souci, le lapin tombe amoureux. Pas du bon animal, il tombe amoureux d'un cheval. Caille, 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 un cheval, ça doit faire mal. Caille, 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 un cheval, ça doit faire mal. Mais notre petit lapin, dis donc qu'il a peur de rien. Je mets dans le groupe, dans la seconde, il monte en groupe. Un bisou dans la crinière du cheval très cher.
Qu'est-ce que vous penseriez d'une balade?
Il se passe des trucs bizarres.
Bizarre.
Qu'est-ce que vous penseriez d'une balade?
Il se passe des trucs pas nets. Son
le mariage
se passe bien.
Oh, mais c'est trop bien tout
la
ça.
La nuit de Noël s'approche, le lapin tout excité. Faire comme le cheval, que tout va bien se passer.
C'est pas la première fois
qu'ils vont partager un toit. Faire l'amour comme des rois dans des jolis draps en soie.
À partir de là, rideau, c'est trop tard. Attendons plutôt demain matin pour la suite. We'll be right back.
fête, nuit de noces atroces. Le lapin eut très très mal. Et oui, tout le monde connaît bien la notoriété d'un cheval. Il est bien monté, long comme un manche, avalé, dur comme de la pierre et fait comme une bouteille de lait.
Enfin bref.
Alors on récupère.
Je vous frotterai à l'alcool et puis je vous ferai un bon massage.
Je vous
frotterai à l'alcool et puis je vous ferai un bon massage.
Alors on récupère.
Il se passe des trucs bizarres.
Bizarre, il se passe des trucs pas nets.
Bizarre.
Pas nets. Dans la forêt bizarre. Des trucs
dans la forêt pas nets.
Y'a des trucs qui se passent pas nets. Dans la forêt.
Dans la forêt.
Bizarre, pas nets.
Tu mériterais d'être raconté.
Bizarre, pas nets.
Des trucs dans la forêt.
Eh, ça réveille, hein, basta papa, il y a petit lapin, c'est péchu.
Petit lapin à la moutarde aux oignons.
Ah, c'est bon ça. On va se faire ça à midi, je sais pas où, mais... Bon, et ben cette émission s'achève. Hein. Vous avez eu le plaisir indéniable et infini d'entendre Audrey dans la rubrique Chou et Fadaise. Merci Audrey.
Avec grand plaisir, Elsa.
Tu reviendras. Hein.
Ouais, quand tu veux.
Michel Guiraud, nouveau responsable départemental des Restos du Cœur, avait enfilé la chemise à rayures. Dans sa rubrique La cerise sur le micro, Elsa Decour nous a emmenés donc dans les cuisines de Martin au lieu-dit, où vous pourrez donc vous attabler dès demain. Côté musique, Zoufris Makaras avec la chanson J'aime pas travailler. CD de la semaine. Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale, une chanson de Boris Vian interprétée par Jean-Louis Trintignant. Tsenga 2 avec la chanson Eldorado, un autre CD de la semaine. Et Petit Lapin de Basta Papaye. Voilà. Demain, c'est Elsa Decour qui prend les manettes de cette émission. Et nous, on vous dit au revoir. Bonne nuit, les petits.